La collection Coffre à gants présente « Sans éléphant sur un brin d'herbe » de sa sainteté, le Dalaï Lama. Narration, Jean Leclerc. Le droit au bonheur. La génération actuelle connaît un développement considérable, en particulier sur le plan matériel. Mais parallèlement, notre société est en crise et nous devons faire face à de sérieux problèmes. Il en est qui nous sont étrangers, dont les causes sont hors de notre portée. Les catastrophes naturelles, par exemple. Cela, nous ne pouvons pas les éviter. En revanche, beaucoup d'autres problèmes pourraient nous être épargnés, puisque nous les devons qu'à nos traits de caractère défectueux, à ce douloureux manque qui nous habite. Ceux-là, j'estime qu'ils sont superflus. Leur cause étant de notre ressort, il ne tient qu'à nous de rectifier notre attitude pour qu'il n'ait plus aucune raison d'être. À quoi tiennent ces conflits? Le plus souvent à des divergences idéologiques, malheureusement parfois alimentées par les différentes foi religieuses. C'est dire toute l'importance d'une juste attitude. Bien des philosophies ont vu le jour. Quant à moi, je considère que la compassion est la base, le support souverain de l'humanité. Cette qualité éminente qui incline à aimer son prochain, à le secourir quand il souffre, à s'oublier pour lui, est une aptitude que l'homme seul est en mesure d'éveiller. Quand il s'y emploie, sa bonté, son comportement chaleureux et ses qualités de cœur s'expriment. Il en est le premier à être heureux. Ses proches, sensibles à l'atmosphère paisible et sympathique qu'il fait régner autour de lui, en bénéficient tout autant. Mais ce type d'expérience peut ne pas s'arrêter là et doit s'étendre au-delà de ce cercle. On peut communiquer ainsi d'individu à individu, entre concitoyens, de pays en pays, de continent à continent. La méthode qui permet de se mettre au diapason de cet agréable mode de communication fait appel à la fois à la réflexion analytique et à la méditation. Elle se fonde sur un principe de base, la compassion, la sollicitude envers l'autre. Mais l'autre ne va pas sans moi, et selon le point de vue conventionnel, ce moi est indéniable. Nous en avons une authentique sensation, ancrée au plus profond de nous, qui se traduit par « je veux ceci »,« je ne veux pas cela ». Ce sentiment d'être soi se manifeste très naturellement à nous et s'accompagne tout aussi spontanément d'un désir de bonheur et d'une répulsion pour la souffrance, ce qui est non seulement naturel, mais juste. Nous désirons être heureux. Nous ne voulons pas souffrir. Et c'est parfaitement légitime. Nous n'avons même pas à nous en justifier. À ce titre, nous avons droit au bonheur et à ne pas souffrir. Ce sentiment naturel, ce droit au bonheur, m'appartiennent donc au même titre qu'à tous, me direz-vous. Une chose diffère. Lorsque vous dites « moi », cela ne concerne qu'une personne. Quand il s'agit de tous, des myriades d'êtres vivants sont en cause. Pour que cela ne demeure pas abstrait, il convient de méditer en brossant mentalement le tableau suivant. Imaginez d'un côté votre « moi » qui jusqu'à présent ne s'est soucié que de ses intérêts propres, et de l'autre, une foule d'êtres vivants à perte de vue. Au centre, vous, le troisième acteur, observant de part et d'autre. N'y a-t-il pas des deux côtés une même aspiration à être heureux, une même répugnance à souffrir? N'ont-ils pas tous également le droit d'obtenir satisfaction? Incontestablement. Mais quand on est motivé par l'amour de soi, on estime que rien n'est plus important que soi-même. Cependant, si grande soit la valeur que l'égoïsme s'accorde, il ne représente qu'une seule personne et, si peu qu'il en reconnaisse aux autres, ceux-ci forment une multitude. L'observateur impartial ne saurait contredire une telle évidence. Reconnaissant sans peine que le plus grand nombre représente infiniment plus qu'un seul, il réalise mieux qu'il peut être la valeur d'autrui par rapport à lui-même. Alors il en vient à la question suivante. Vais-je utiliser les autres pour qu'ils servent mes propres fins? Tous au profit d'un seul ne serait pas équitable. Et même si c'était possible, Cela ne suffirait pas à me rendre heureux. Et si je faisais de moi l'instrument de leur bonheur? Il est juste de mettre ses capacités et le meilleur de soi au service de tous. C'est une source de grande joie. Si vous persévérez dans cette attitude, avec cette logique de pensée, vous verrez que la compassion, l'amour d'autrui iront croissant. Vous pourrez même l'étendre à vos ennemis, ce que l'attachement rend d'ordinaire impossible. Car pour vos proches, vos parents, vos enfants, vous éprouvez sans nul doute de l'amour. Mais c'est parce qu'il s'agit de votre mère, de votre père, de vos enfants que vous les chérissez. Quand l'amour est lié à l'attachement, on est incapable d'aimer ceux qui se montrent hostiles à notre égard. Nous sommes alors encore trop attachés à notre intérêt personnel. Tout autre est le sentiment né de la claire reconnaissance de ce que représente la vie, sous toutes ses formes, de ce qui lui est dû. À partir de là, l'amour est assez vaste pour n'exclure personne, pas même l'ennemi. Dans cette progression, il est indispensable de développer la tolérance et la patience. Et qui, sinon l'ennemi, peut nous donner l'occasion d'en faire preuve? Nos parents, nos maîtres. Ils ne sont pas les mieux placés pour cela. Notre adversaire, lui, réussit à nous l'inculquer. Accordons-lui ce mérite. En la matière, il n'est pas le meilleur maître. L'ami, le maître le plus remarquable, sont de loin moins empressés. À maintes reprises, j'ai pu constater que les périodes les plus pénibles de l'existence sont aussi les plus enrichissantes, tant en connaissance qu'en expérience. Aussi longtemps que la vie ne nous malmène pas, la progression est aisée, tout en douceur, et c'est parfait. Mais que viennent les mauvais jours, et l'on tombe dans le désespoir et la dépression. Pourtant, c'est justement dans l'adversité que l'occasion nous est donnée d'apprendre. C'est alors que se forge la force intérieure, la détermination, le courage pour affronter l'épreuve. Qui nous offre cette opportunité? Notre ennemi. Cela ne veut pas dire que l'on doive s'incliner devant lui. En fait, suivant les procédés qu'il emploie, on peut être amené à une épreuve de force. Mais tout au fond de soi, on ne doit ni perdre son calme, ni oublier la compassion. C'est tout à fait possible. Vous pensez peut-être, là, le Dalai Lama exagère. Nullement. Vous pouvez en faire l'expérience et en juger par vous-même. Rien ne mérite mieux nos efforts que de développer cette forme d'amour. Je l'ai dit et je le répète, c'est là le principal message de la religion. En ce domaine, plutôt que de vous en tenir à des débats philosophiques, attelez-vous à cette compassion qui en est l'essence véritable. On peut se dire bouddhiste lorsqu'on s'efforce de faire croître cette ouverture, de pratiquer cette vertu, même si l'on n'est pas le Bouddha sur un piédestal. C'est très bien ainsi. Quelle que soit votre religion, ne vous laissez pas arrêter par des questions philosophiques. Je vous le dis dans votre intérêt. Accordez la priorité à ce qui est vraiment essentiel à votre vie quotidienne. À cet égard, bouddhisme, christianisme et autres religions diffèrent peu. Toutes ont à cœur le progrès de l'homme, la fraternité et l'amour. Ces objectifs leur sont communs. Prenez-en l'essentiel et vous constaterez bien peu de désaccords entre elles. À propos du nirvana sur lequel on s'interroge parfois, mon sentiment est que cette question n'est pas la plus urgente. Si vous menez au fil des jours une existence honnête et faites preuve de bonté, d'amour, de bienveillance, d'abnégation, cela vous conduira automatiquement au nirvana. Par contre, si vous vous contentez d'ergoter sur des sujets philosophiques sans être scrupuleux au quotidien, vous risquez d'atteindre un étrange nirvana. Si votre pratique quotidienne est nulle, ce ne sera certainement pas celui qui convient. Appliqué dans la vie de tous les jours, ces avis se révèlent excellents. Qu'importe que l'on croie ou non en Dieu, qu'importe que l'on croie ou non en Bouddha, qu'importe, même si l'on est bouddhiste, que l'on croie ou non en la réincarnation, l'important est de mener une bonne vie. Une bonne vie n'est pas faite de bonne nourriture, de bons vêtements et d'un bon toit. C'est également être animé d'intentions pures, d'une compassion sans dogmatisme ni savante philosophie. C'est comprendre que les autres, hommes et femmes, sont nos frères et nos sœurs. C'est respecter leurs droits et leur dignité. La faculté de s'entraider est éminemment humaine. On se doit de secourir ceux qui sont dans la détresse. À défaut d'aide matérielle, manifester de l'intérêt, offrir un soutien moral, exprimer de la sympathie est déjà précieux. Ce comportement devrait présider à toutes vos activités. Dans le monde actuel, selon certains, la religion n'aurait de raison d'être que pour ceux qui demeurent au fin fond des contrées reculées, tandis que dans le monde des affaires et de la politique, on n'en aurait que faire. Je ne suis pas d'accord. Je vous l'ai dit, ma foi est simple. Sa motivation clé est l'amour. Toute action conséquente et délibérée, à part les menus faits, procède d'une motivation. Dans le domaine politique, si vous avez des intentions pures et qu'avec elles, vous améliorez la société, alors vous êtes un bon, un honnête homme politique. La politique n'a rien de mauvais en tant que telle. Parfois, on s'en prend à elle, on dit qu'elle est sale. Ce n'est pas vrai. C'est une nécessité, un instrument fait pour résoudre des problèmes humains, des difficultés sociales. Ce n'est pas un mal, elle répond à un besoin. En revanche, quand des individus douteux, dénués de scrupules et de motivations correctes, s'emparent du pouvoir, alors la politique peut devenir sale. Nous pouvons faire le même constat dans le domaine religieux. Si je prêche avec une mauvaise motivation, mon sermon devient néfaste. Mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à la religion ni pour la traîner dans la boue. La motivation est donc essentielle. C'est pourquoi je mets simplement ma foi dans l'amour, le respect des autres et l'honnêteté. Je ne réserve pas ces valeurs au domaine religieux. Elles s'appliquent tout autant à la politique, à l'économie, au commerce, aux sciences, au droit, à la médecine, aux disciplines qui ont pour tâche d'aider l'humanité et possèdent les moyens d'y parvenir pour peu que la bienveillance les anime. Sinon, au lieu d'apporter un bien-être, elles deviennent une menace pour le monde, un sujet de crainte pour tous. L'humanité a un besoin vital de compassion. À y regarder de près, le monde d'aujourd'hui est loin d'être aussi heureux qu'il y paraît. Lorsque je me rends dans un nouveau pays, au premier abord, tout semble radieux. Les gens que je rencontre commencent par me dire que tout va pour le mieux. Ils n'ont pas le moindre sujet de plainte. Puis, au fil des jours, j'écoute. Je les entends me parler de leurs problèmes, qui sont nombreux, et de toute évidence, fort répandus. La société est en proie à un malaise profond. On se plaint beaucoup de solitude et de surmenage. Dépression, angoisse et détresse morale sont des états de plus en plus courants. La justice et l'honnêteté ne font pas bon ménage avec la ruse et l'intrigue. Prétendre agir pour le bien des autres avec une arrière-pensée égoïste, parler de paix, d'amour et de justice, et n'en faire aucun cas dès que les choses se gâtent, être capable d'aller à des extrémités telles que la répression ou la guerre, voilà des signes qui ne trompent pas. Ils révèlent un manque. Ce climat d'inquiétude sert désormais de toile de fond à notre vie quotidienne. C'est terrible, mais c'est la réalité. Peut-être penserait-on que l'autre solution, celle de la transformation intérieure à laquelle j'ai fait allusion précédemment, est idéaliste et ne correspond pas à notre situation ici et actuellement dans ce monde. Cependant, je persiste à penser que si l'on continue à se calquer sur un modèle social entièrement conditionné par l'argent et le pouvoir, tenant aussi peu compte des vraies valeurs de l'amour, schéma dans lequel l'humanité perd tout sens de la justice, de la bienveillance et de l'honnêteté, les générations à venir pourront bien se trouver en butte aux pires difficultés et à des souffrances plus terribles encore. Alors, malgré la difficulté que représente un changement intérieur, le jeu en vaut la chandelle. J'en ai la ferme conviction. Il faut tenter l'impossible. Que l'on réussisse ou non est une autre question. Même si nous n'arrivons pas à atteindre le but que nous nous sommes assignés au cours de cette existence, peu importe, Au moins aurons-nous tenté de bâtir un monde meilleur, fondé sur l'amour, authentique, et non sur le profit personnel. Les dirigeants qui s'occupent quotidiennement de régler les problèmes sont évidemment tenus de se mobiliser sur les plus urgents. Mais cela ne doit pas les empêcher de tenir compte, en même temps, des risques à long terme encourus par la société et par l'espèce humaine en général. Prenons un exemple. Nous avons besoin d'un corps sain et fort pour être à l'abri des petites maladies courantes. Si nous sommes contaminés, notre bonne constitution fondamentale nous permet de guérir rapidement. Il en est de même pour la société. S'investir en totalité, de façon réaliste, dans des solutions à court terme pour des bénéfices temporaires revient à prendre un comprimé le jour où l'on tombe malade. Alors que se préoccuper en même temps du devenir de l'humanité équivaut à édifier un corps sain. On ne peut se dispenser de mesures préventives. Il faut mener de front les problèmes immédiats et ceux à long terme. Depuis plusieurs années, j'observe le monde. Je réfléchis sur ces problèmes, comme sur ceux de mon pays, le Tibet. Je rencontre des gens de vocations diverses et de tous horizons. Fondamentalement, tous se ressemblent. Je viens de rien. Vous êtes pour la plupart occidentaux. À première vue, nous sommes différents. Plus je vais souligner nos différences, et plus la distance va s'accroître entre nous. Mais si je vous regarde comme des gens de mon espèce, des êtres humains, mais semblables, avec un nez, deux yeux, la distance s'efface automatiquement. Nous sommes faits de la même chair. Je veux être heureux, vous aussi. À partir de cette mutuelle reconnaissance, un respect, une vraie confiance peuvent naître entre nous. L'entraide et l'harmonie vont se manifester à leur tour. C'est ce qui est susceptible de mettre un terme à des difficultés sans fin. Dans le monde d'aujourd'hui, tout est étroitement lié. Aucun pays, nul continent n'est maître de son sort. Le destin de chacun est indissociable de celui de tous. Il est donc capital d'établir entre nous une véritable entente, avec des intentions pures. Ainsi, nous parviendrons ensemble à résoudre bien des problèmes. C'est un tel plaisir que de communiquer en bonne intelligence, avec cœur, d'être à être, et c'est tellement nécessaire. Une motivation pure en est la clé.